Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et évidemment, en ce jeudi soir, comme tous les soirs d'ailleurs, du lundi au jeudi, c'est le débrief de l'actu tech. Avec ce soir, pour commenter l'actu, Damien Douany. Bonsoir Damien.
Bonsoir François.
Toujours un plaisir que de recevoir Damien, responsable de l'innovation de l'école narrative, fondateur de Lab36 et toujours très pertinent dans le commentaire de l'actu tech. Tout comme Frédéric Simotel, qu'on
Exactement.
Ne présente plus.
J'osais le dire.
Il est trop modeste.
Mais très sûr de lui.
Oui, mais excusez-moi, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin.
Ouais, bah oui.
Parce que le meilleur est en visio.
Ouais.
C'est ça. Salut Bruno.
Bonsoir messieurs.
Bruno Guegui-Minetti, journaliste et animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Voilà, un spécialiste de l'actualité tech qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui est au Québec. Tout va bien mon cher Bruno?
Oh, mis à part la canicule depuis 3 jours, tout va très bien.
Ah. Eh ben écoute, tu vois, tu as la canicule chez toi, nous ici,
c'est l'automne.
On dépasse à peine les 20 degrés, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi là. Alors, messieurs, dans l'actu, Damien, Fred et Bruno, on va revenir sur ce nouveau rival pour ChatGPT, hein, l'un des cofondateurs d'OpenAI, qui va concevoir sa propre IA, c'est assez intéressant. Il s'appelle Ilya Sutskever. Voilà. On va aussi parler d'un test qui est très intéressant, c'est le fameux test de Turing. ChatGPT l'a passé et visiblement plus d'un, comment dirais-je, un sondé sur deux a cru
un peu plus, oui.
Un petit peu plus,
54%.
Et puis sans tricher cette fois-ci parce qu'elle avait déjà passé,
oui,
mais elle
voilà.
avait triché, ouais.
A cru que en fait l'humain pensait qu'il discutait avec un humain alors que c'était ChatGPT. Vous vous rendez compte
et
quand même le truc
nous.
Ça fait flipper. On évoquera aussi toutes ces startups GenAI fondées en France qui récoltent beaucoup d'argent. On parlera d'Agen aussi, qu'on avait découvert il y a quelques mois de cela, qui est valorisé 500 millions de dollars parce qu'il vient de faire une belle levée de fonds de 60 millions. Meta aussi, qui est en train de réorganiser toute sa branche VR et lunettes. Très intéressant aussi parce que les lunettes de Meta sont un vrai succès. Bref, plein d'actu ce soir. Et on va commencer par OpenAI, donc, qui a désormais un nouveau concurrent et pas n'importe lequel. Je le disais, il s'appelle Ilya Sutskever, son cofondateur qui vient tout juste de lancer sa propre société d'intelligence artificielle. Il a tweeté il y a quelques heures. Il avait même tenté de faire licencier, rappelez-vous, Sam Altman à l'époque. On se croirait dans Dallas. Aujourd'hui, l'objectif est clair, se calquer sur le célébrissime ChatGPT en déployant un rival sûr. On écoute le reportage de Zidane Azouzi et on revient juste après.
Parti en claquant la porte, Ilya Sutskever n'a pas dit son dernier mot sur l'IA. Il lance aux États-Unis sa propre société baptisée Save Superintelligence. L'ancien directeur scientifique et cofondateur d'OpenAI veut bâtir une superintelligence sûre. En clair, une IA qui devrait dépasser les humains mais sans les menacer. Sans surprise, pour marquer sa différence, celui qui est considéré comme l'un des plus brillants scientifiques sur le marché met au premier plan la sécurité de son entreprise. Save Superintelligence est d'une certaine manière un retour au concept d'OpenAI. Lors de son lancement, OpenAI était aussi une société à but non lucratif avant de changer de statut. Face à la nécessité de lever des fonds, l'entreprise californienne a dû évoluer. Pour accélérer son développement, la start-up pourra compter sur des pointures du secteur. Daniel Lévy ou encore Daniel Gross, les deux ayant accompagné OpenAI. La jeune pépite aura des bureaux à Palo Alto, au cœur de la Silicon Valley, mais aussi à Tel Aviv. Elle appelle déjà de potentiels recrues à les rejoindre.
Voilà, très intéressant tout ça. Hein. On va dire que c'était quelqu'un qui comptait hein, chez OpenAI, ce monsieur. Oh
bah c'est
hein.
un peu le directeur technique.
Voilà, directeur technique.
C'est un peu le cerveau de... Voilà, c'est quand même l'une des parties fortes du cerveau de ChatGPT.
Voilà, cofondateur quand même d'OpenAI. Alors, il y a deux parties dans cette histoire-là. Il y a ce qu'il est en train de construire. Et puis, on va dire toute la drama, le soap opéra qui s'est déroulé ces derniers mois. Parce que, figurez-vous, ce monsieur-là, donc, faisait partie du pool qui voulait virer Sam Altman en novembre dernier. Alors après, il est revenu sur sa décision. Il a dit, bon, je regrette d'avoir fait ça, etc., etc. Bon, je pense que Sam Altman en avait gros sur la patate et ils se sont... Voilà, enfin, il est parti il y a quelques mois de cela.
Enfin, il y a eu encore une autre histoire. Hein, oui. C'est qu'en fait, ils ont dissous l'équipe du super alignement,
oui.
Qui est l'équipe de sécurité sur laquelle ils travaillaient. Elle a été dissoute. Donc, d'un côté, il a essayé de
c'est
le virer.
C'est lui qui l'a dirigé, non?
Oui, je crois. Tout à fait. Oui. Donc, non seulement il a essayé de faire virer Sam Altman, et on se doute que c'était certainement pour des divergences de vues sur la question de la sécurité de GPT. bon, finalement, il a été obligé de revenir, comme tu le disais, sur son avis. Et finalement, Sam Altman dissout son équipe. Bon, on va dire que je pense qu'il devait pas être les meilleurs copains, quoi, hein, sur la fin.
Non, et puis, faut rappeler, et d'ailleurs, on a vu des témoignages, nous, qui nous disaient, il a même disparu des radars pendant, oui. Non, et pendant plusieurs semaines. On a des gens,
heureusement qu'il n'est pas en Chine,
des chercheurs. Non, mais on avait des chercheurs en France, chercheurs, chercheuses qui le connaissaient bien et qui essayaient de converser avec lui. Il ne répondait plus, c'était silence radio total.
Il est parti à moi, Hawaï. Non.
Oui, ou alors non, ou alors tu sais, visiblement le personnage, il est un peu, il a pas fait un burn-out, mais enfin il a été très déçu, il a eu du mal un peu à se remettre de
ce qu'il a vécu
comme une trahison, quoi. Ouais, travaille dessus depuis 2017, il sent, et le jour où ça commence à marcher, il sent que l'autre est en train de lui faire un enfant dans le dos, enfin que Sam Altman lui fait un peu quelque part un enfant dans le dos. Et d'ailleurs, comme par hasard, Sam Altman annonce les nouveaux statuts d'OpenAI, et c'est au moment où Ilya Sutskever lance avec un ancien d'Apple et un ancien d'OpenAI. Ce qui va être important, lance donc, alors ça s'appelle Safe Super Intelligence. Safe, c'est important, hein, comme mot dans la définition. Ce qui va être intéressant, c'est de voir par la suite combien de chercheurs vont basculer d'OpenAI.
C'est ça.
Parce qu'ils étaient bien contents d'avoir un beau salaire chez OpenAI et d'avoir un projet quelque part.
Et là, tout d'un coup. Départ, hein,
parce que alors, ils avaient tous soutenu quand Sam Altman avait été. Ils étaient tous à soutenir Sam Altman. Mais on va voir là, est-ce que. Voilà, un peu comme nous, ce que l'on connaît aujourd'hui avec les députés qui s'en vont, qui reviennent, qui changent de camp. Est-ce que certains vont basculer du côté moins obscur de la force?
Alors, c'est quelqu'un de très discret, hein, qui est à l'opposé de Sam Altman, qui est très. Enfin, voilà, c'est un.
C'est le businessman.
C'est un bon communicant.
C'est un peu comme à l'époque Apple, hein. Vous avez Steve Jobs et Wozniak.
C'est vrai.
Wozniak, c'est le gars de la technique qui était hyper brillant, mais qui aimait pas du tout les projecteurs. Et de l'autre côté, c'était le commerçant, on va dire, brillantissime. Et,
Paul Allen, Bill Gates.
Oui, voilà. Il y a toujours des, de toute façon, il y a toujours eu des duos entre la personne du business et la personne de la tech. Voilà. Et aujourd'hui, on a un duo qui explose. Alors que justement, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces histoires passées, ils ont jamais explosé ces duos.
Alors, Bruno, ton point de vue sur tout ça?
Moi, j'adore le synopsis de film que Frédéric Simotel nous livrait. J'ai l'impression d'entendre la critique d'un film qui va être présenté bientôt sur Netflix. Mais effectivement, ça décrit bien l'histoire. Hein? Et puis, Frédéric mentionnait quelque chose ou attirait notre attention sur un élément qui est hyper important. D'une part, c'est quand même le scientifique en chef de OpenAI qui quitte. Il part. C'est lui qui avait s'il n'avait pas la vision, en tout cas, il savait comment le faire, le plan. Il a réussi. Et donc, là, il s'en va réussir ailleurs un nouveau projet. Mais moi, ce qui m'interpelle énormément, il n'est pas fou. Il n'a peut-être pas le sens marketing de Altman, sauf que d'arriver avec une solution qui s'appelle la super intelligence sûre, ça c'est la traduction québécoise que j'en fais. Le mot qui est important ici, c'est sûr. Dans une ère où on est en train de parler d'intelligence artificielle générale, il y a énormément de gens qui sont craintifs, je dis de gens, mais d'entreprises et de gouvernements, qui sont très craintifs envers l'arrivée de la prochaine génération d'intelligence artificielle. Et là, d'arriver avec une solution qui se positionne carrément et publiquement comme étant une super intelligence, mais qui sera sécure, et on vise vraiment là-dedans à assurer les gens que ce qu'ils veulent faire, c'est l'aspect sécuritaire, donc d'être en contrôle de son expérience d'intelligence artificielle. Je pense que ça va résonner auprès d'énormément de gouvernements qui sont à l'heure actuelle encore en train de rédiger les lois qui vont encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle chez eux. Alors ça, c'est de la musique aux oreilles aux signataires, ça les, peut-être mis à part Elon Musk, là, mais les 2000 signataires qui, il y a 2 ans, avaient signé le fameux document demandant l'armistice dans le monde du développement de l'intelligence artificielle.
Un break de 6 mois, c'est ça,
oui. Exactement. Ben là, vous avez vraiment une réponse. C'est-à-dire que là, on a presque l'impression d'avoir le co-père d'OpenAI qui dit, ben écoutez, moi, je vais vous amener la solution que je voulais vous amener depuis le début, une solution qui va être intelligente, super intelligente, mais aussi sécuritaire, ou c'est pas du tout le chemin que Altman est en train de prendre présentement. Et ça, je trouve que c'est important comme nouvelle.
Ouais, c'est intéressant parce qu'ils sont tous les deux à l'opposé. Ils partent dans 2 directions. Ouais. On le voit, OpenAI va peut-être même devenir une société normale.
Ça va devenir une société normale. Voilà. En fait, il revient sur le projet initial.
Oui, c'est ça.
Que Altman vient d'enterrer. Moi, j'ai cherché des archives en 2016. J'ai retrouvé un document où, en gros, il y avait la signature entre déjà Microsoft et donc les Sam Altman qui étaient déjà là au début. Et justement, Sam Altman qui jurait ses grands dieux que OpenAI est une société non lucrative avec une fondation, et donc en fait tout ce qui est expliqué aujourd'hui qui est en train d'être enterré, et que exactement Ilya veut à tout prix remettre sur la table, c'est en gros laisser les chercheurs travailler tranquillement à l'abri des pressions commerciales, je le cite, hein, et faire en sorte que de l'autre côté il y ait du business quand même qui soit fait, mais que les deux soient séparés pour éviter que l'un ne nourrisse l'autre ou ne pourrisse l'autre.
Ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là donc était cofondateur de OpenAI, mais c'était aussi l'ex-scientifique en chef. Ça veut dire que il a sans doute un héritage de la réussite de ChatGPT. Sans lui, peut-être que ChatGPT n'aurait pas existé finalement.
Les modèles GPT à la base.
Ouais. Les modèles GPT. Donc c'est quand même, on va dire, une force vive d'OpenAI qui est partie et qui va créer peut-être un système concurrent. Finalement.
Mais c'est là où il faut vraiment. Enfin, moi, j'insiste souvent là-dessus parce qu'en discutant avec pas mal de chercheurs, il m'avait expliqué ça et c'est vrai que je défends toujours cette opinion-là quand je suis sur ce plateau-là. C'est que c'est un peu comme au foot, quoi. Il y a des vrais talents, des vrais stratèges. Et puis après, il y a des bons joueurs, mais qui ne font qu'appliquer la stratégie. Et là, c'est un peu ça. Ilya Sutskever, c'est lui qui a eu la vision. Après, qu'il s'entoure d'une équipe de super bons développeurs, un peu comme chez Mistral, hein,
oui, Arthur Mensch. Mais c'est l'étincelle, voilà, tu veux dire.
Les trois, c'est vraiment les cerveaux. Et quand on regarde, on dit toujours ça, hein, quand on regarde au niveau mondial, ils sont 200, 250 vraiment cerveaux à penser un peu l'IA de demain. Et puis derrière, bon, il y a des milliers de développeurs plus ou moins doués, plus ou moins rapides, qui vont avoir la petite étincelle à un moment. Mais ceux qui sont capables de bien structurer ça, et Ilya Sutskever, il en fait partie.
Avec une nuance, c'est qu'en fait, Ilya est un scientifique. Tu pourrais prendre un Musk ou un Altman, c'est pas des scientifiques, mais ils ont une certaine vision.
D'ailleurs,
après les scientifiques,
c'est pour ça que Musk est souvent mis de côté par les chercheurs en IA, parce que ils disent c'est pas un scientifique, il n'a jamais développé sur l'IA,
tout ça.
Il a la vision, etc. Mais là, il y a Sutskever, il a l'architecte, enfin il est devant des lignes de code, il sait exactement comment les arranger, et ensuite c'est lui qui va guider ses équipes, et ça c'est très important, hein. C'est vraiment, on le dit souvent, comme dans une équipe de foot, quand on enlève un très bon joueur, il peut y avoir un bon collectif, mais le fait qu'il y ait ce très bon joueur qui soit le stratège, c'est lui qui marque les buts, qui sait motiver tout le monde. Là, on touche un peu. Alors, je ne vais pas dire que c'est un drame pour ChatGPT, parce qu'il y a quand même Microsoft derrière qui va pousser. Et puis, Sam Altman, il s'est recruté aussi.
Et puis, la brique principale est là. Hein, c'est-à-dire que je pense que pour l'instant, étant donné que les meilleurs ingénieurs sont encore chez OpenAI, il n'y a pas de souci.
Tu as de l'argent pour les maintenir.
Et tu as de l'argent pour les maintenir.
Et je rebondis sur ce que dit.
Mais après, est-ce que intellectuellement, ils vont être d'accord avec le futur de
ChatGPT? C'est là que tu vas avoir ce qui va faire le choix d'aller vers le côté scientifique. D'autres qui vont rester.
Et je rebondis sur ce qu'a dit Bruno, c'est le côté donner le nom Safe. Mais c'est tout bête, mais c'est génial comme nom. Enfin, Safe Super Intelligence. Ouais. Le nom paraît un peu bête comme ça, mais on imagine l'entreprise qui aujourd'hui sort IA sécurisée. On a confiance, quoi.
Ok, il est 20h13, on enchaîne avec un autre sujet lié à l'IA, cette intelligence artificielle qui est en train de dépasser le maître, c'est-à-dire l'humain. Parce que ChatGPT, il faut le savoir, a passé le test de Turing, qui consiste en fait à faire croire à un humain qu'il est en train de discuter avec un autre humain, alors qu'en fait il discute avec une IA. C'est assez clair. On écoute les explications d'Anthony Morel, il en parlait ce matin dans Good Morning Business et on revient juste après.
C'est un test qui a été imaginé en 1950 par Alan Turing. Alan Turing que tout le monde connaît, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'un des pères fondateurs de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Et en 1950, il s'est demandé comment il pourrait faire un test pour déterminer qu'une machine est intelligente. Et pour ça, il s'est dit, en fait, on va faire converser un chatbot d'un côté, un agent conversationnel, et de l'autre, un être humain, à l'aveugle évidemment. Et si la machine arrive à faire croire à l'être humain, dans plus de 30% des cas, que c'est un humain et non pas une machine, alors la machine est intelligente. Et c'est ce qui s'est produit. Alors, on se doutait bien que ça allait arriver avec l'évolution de ChatGPT, le langage de plus en plus naturel, de plus en plus sophistiqué. Mais là, ça a été formalisé pour la première fois. Il y a eu une expérience qui a été montée par des chercheurs de l'université de San Diego aux États-Unis. Ils ont pris 500 humains, ils ont fait ça bien, hein. Ils les ont séparés en 4 groupes. Il y a 3 groupes qui discutaient à l'aveugle avec une IA. Alors, il y avait une version ancienne de ChatGPT, une version plus récente, et puis un chatbot qui s'appelle Elisa. C'était le premier chatbot qui date des années 60. Et puis le dernier groupe qui discutait humain avec humain. Tout ça à l'aveugle. À la fin, on voit ce qui se passe. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ceux qui discutaient avec la dernière version de ChatGPT, 54% des cas, ils ont cru qu'ils étaient en train de discuter avec un être humain. Donc le test est passé, le test est franchi. Pour la première fois, le mythique test de Turing, ça y est, en fait, ce jalon-là est passé.
Bruno, qu'est-ce que tu penses de ce test ? C'est assez intéressant hein, de voir que certains humains peuvent être trompés et ils peuvent croire en fait qu'ils discutent avec un humain alors qu'en fait c'est une IA.
Ouais. J'avoue que c'était une étape importante à franchir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que en février dernier, il y avait une publication de l'université Stanford aux États-Unis qui confirmait que le test avait été fait. Puis si on recherche avant, je pense qu'en mars 2023, on avait commencé à faire passer des tests. Mais celui-là, là, dont on parlait ce matin aux informations à BFM, c'est celui qui est le plus important sur un plus grand nombre de bêta-testeurs. Et c'est un jalon important, mais je vous dirais que pour bien des gens, comme les mortels, là, monsieur, madame, tout le monde, ce test-là, il est déjà passé depuis un moment. Vous avez juste à penser aux gens qui utilisent les bornes intelligentes dans les résidences de personnes âgées. Maintes fois, j'ai fait des histoires là-dessus et ils ont l'impression d'avoir quelqu'un. C'est une machine, mais ils ont l'impression d'avoir quelqu'un qui leur parle. Et ce qu'on est en train de voir, ben, avec la nouvelle génération de ChatGPT 4o, et les autres qui vont suivre parallèlement, on est dans ce monde-là où le test de Turing, il est derrière nous et là, on arrive avec une nouvelle réalité, donc de la machine qui parle avec l'humain, comme si c'était un humain.
Voilà, et on se rapproche évidemment de ces grands films de science-fiction petit à petit, hein, Damien.
Oui, c'est la volonté d'ailleurs d'Altman d'aller vers Heure, hein, il l'a dit. Ouais. J'ai posté sur mon compte Twitter, si vous avez envie d'aller le voir, l'étude qui a et le protocole qui a été suivi pour ce test de Turing dont on parle. Alors déjà, il faut savoir que l'humain, le vrai humain, hein, n'a été reconnu qu'à 67%. Donc là, c'est intéressant de reparler, de comparer déjà ça, 54%, 67%. Moi, le deuxième truc que je note quand même, c'est qu'ils n'ont pas fait la compétition entre GPT-4, alors c'est pas ChatGPT, hein, c'est GPT-4.0, donc le moteur, avec Claude ou avec Mistral. Hein, ils ont mis la vieille version de GPT, puis ils ont mis Elisa, donc c'est comme si je faisais courir une Formule 1 d'aujourd'hui avec une Formule 1 d'il y a 10 ans, une Formule 1 d'il y a 50 ans. Bon, alors, on pourrait discuter un peu sur le truc. Donc ce serait intéressant plutôt de comparer des moteurs équivalents.
Oui. Par exemple, Claude,
Mistral, ou même ou les moteurs Gemini, etc. Ouais. Après, il y a un autre truc intéressant à regarder, c'est que finalement, comme tu le disais, Bruno, la question de fond, c'est est-ce que c'est vraiment l'intelligence de l'IA quand on discute avec elle qui nous sublime et qui fait qu'on pense qu'on est un humain, ou si c'est autre chose. Et en fait, c'est a priori autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez Black Lemoine. Black Lemoine, c'est un chercheur de Google qui travaillait sur les modèles de Llama, les modèles de d'IA de Google. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a pété les plombs parce qu'un jour, en discutant avec une IA qu'il avait en laboratoire, il s'est fait prendre au pied sur le fait que il a eu la sensation que l'IA avait développé des sentiments.
Mais on s'en souvient de cette histoire-là.
Et il a été viré parce qu'en fait, il a dit à tout le monde, ça y est, on a fait un truc dingue.
Oh là, Google a détesté ce truc-là, a étouffé l'affaire et l'a viré.
Alors pour quelle raison d'abord? Parce qu'en fait, c'était une IA expérimentale où en fait, il n'y avait aucune borne, aucun système de protection, on va dire.
D'accord, elle était 100% sans... Voilà, elle était débridée.
Quoi. Elle était non pas super alignée, mais elle était effectivement débridée. Le truc qu'il faut retenir, c'est qu'au final, c'est quoi l'histoire? C'est que la pièce de la faiblesse dans l'histoire, c'est l'humain. C'est comme on dit, c'est entre l'écran et entre le clavier et la chaise, il y a l'humain, c'est très souvent là que réside le bug. Et en fait, l'humain, il aime les émotions. À partir du moment où on trouve une IA qui est capable de singer de manière assez particulièrement bien faite, on va dire le côté émotionnel de
l'empathie.
Discussion et l'empathie, et ce que j'ai regardé sur le document, c'est ça qui est plutôt bien fait, et GPT-4.0 est plutôt bon là-dedans, on va tomber dans le piège. Donc ce que tu disais, Bruno, sur le fait de dire qu'on croit qu'on parle à une machine, si c'est bien fait, si c'est bien, on va dire, si c'est bien féqué, hein, tu m'excuses le terme anglais, si ça, on peut facilement tromper quelqu'un, et on le prouve ici, donc c'est assez intéressant de voir ça.
Oui, mais ça change rien sur le fait qu'il y a...
Ça ne change rien sur la performance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la question de fond, c'est qu'il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer au fait de pouvoir reconnaître une IA. Et aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'on n'est pas du tout prêt à ça.
Mais comment s'éduquer, Bruno? Et après, on donnera la parole à Fred, bien sûr, à ton avis. Tu crois qu'on peut éduquer les gens à détecter une IA alors qu'on sait que, bah voilà, elle progresse, j'allais dire, de jour en jour, peut-être pas, mais de mois en mois?
Ouais. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir un moment d'adaptation. On doit cohabiter les uns avec les autres pour être capable de le faire. Mais un peu comme les gens se sont habitués avec le téléphone intelligent, aujourd'hui, les gens font la différence et l'utilisent d'une certaine façon. Moi, j'ai l'impression que l'IA, d'interpeller, par exemple, moi, le ChatGPT 4.0, je l'interpelle par la voix. Je sais bien que je m'adresse à une intelligence artificielle, mais à l'occasion, je m'amuse. D'ailleurs, je l'ai rebaptisé, les gens le savent. Je l'appelle Jarvis, comme les amateurs de
l'émission de Iron Man.
Exactement, vont reconnaître. Mais on sait que c'est la machine. Sauf qu'à l'occasion, dans différents contextes, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est humain. Mais ça reste que dans l'utilisation, on va savoir que c'est une machine. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est une cohabitation qui va devoir se faire. Et probablement qu'il va y avoir quelque chose de transparent avec les générations. Mais pour le moment, on sait que c'est des machines et on sait. Puis même dans les films de science-fiction, quand dans Odyssée 2001, il s'adresse à Hal dans son vaisseau spatial, ben, il s'adresse à l'ordinateur central de l'appareil et on le sait. Et ça va être ça. Mais dans le quotidien, c'est sûr que dans certaines situations, pour revenir aux exemples que je donnais, vous mettez un aîné ou un senior là, tout seul dans son appartement qui est rarement visité, vous le mettez avec ce genre d'intelligence artificielle générative-là, pour lui, ça va devenir un ami, un confident. Mais pour le jeune qui, lui, prend le téléphone et avec un petit bouton, il appuie ou il interpelle uniquement par la voix, ça va rester une machine qui l'interpelle. Alors, ça va dépendre du contexte, mais moi, j'ai bonne confiance que les gens vont savoir faire la différence.
Et on revient bien évidemment, sur le film Heure, qui est sorti en 2013, que je vous invite à voir et à revoir. On en parlait hier avec Xavier Perret.
Tu es optimiste, Bruno. Tu es optimiste. Moi, je ne crois pas. Je suis très pessimiste sur la capacité de l'humain à ne pas se laisser dépasser par la machine, justement.
Fred.
Il suffit de lui poser trois fois la même question, et puis on voit, il y a deux tests un peu. C'est poser trois fois la même question et voir comment elle répond. Et la deuxième chose, c'est, c'est l'humour. Aujourd'hui, une machine n'a pas le même humour et ça se voit tout de suite, on le voit. Par contre, c'est vrai qu'on se laisse prendre. Et l'autre jour, la nuit de l'IA, là, si vous avez l'occasion de regarder, justement le replay, à un moment, on reçoit Laurence de Villers qui nous dit, mais, si on lui parle poliment, elle va mieux répondre. Mm-hmm. Et on lui dit, tiens, peux-tu me traduire, peux-tu me rechercher des infos sur IA Sutskever, s'il te plaît. Et d'ailleurs, on le voit, faites le test, vous allez voir, vous mettez s'il te plaît, elle va mettre voici ce que je vous propose, puis elle va mettre une petite phrase de politesse à la fin, chose qu'elle ne fera pas si on dit juste.
Elle va s'adapter en fait à notre. Pas notre politesse, mais notre manière d'amener les choses.
Quand même tout ça. Après, je pense que c'est. Encore une fois, c'est de l'apprentissage, c'est à force. Elle s'entraîne évidemment par rapport à tout ça, mais moi je trouve que quand on est habitué, moi j'ai travaillé beaucoup avec chaque jour.
Parce que tu es habitué, parce que tu travailles souvent, la question c'est la personne comme ça qui va tomber sur un serveur vocal.
Oui, ça lui suffit. Si c'est juste une question, c'est pas histoire. Ouais. Si ça devient son confident, alors après, si ça permet d'éviter la solitude pour certains. Pourquoi pas? Après, il faut bien cadrer les choses parce que sinon on retombe dans Heure et ça peut créer un drame absolu. Mmh. Parce que jour où il y a une panne de courant, on n'a plus d'amis. Ou on n'a plus de réseau, on n'a plus d'amis. C'est quand même un peu compliqué.
C'est terrible.
Mais voilà, après.
La question de fond, c'est juste de savoir si on a en face de nous une machine ou pas. Je pense que le point, il est là. Mmh. Et pour finir ce que tu dis sur les avatars, ça s'appelle Character AI, je sais pas si t'as regardé, mais ça cartonne 100 millions d'utilisateurs. Ouais, donc quand on sait que la machine en face est un faux et qu'on veut discuter avec elle, on a des gens qui ont envie de discuter.
Oui, c'est amusant.
C'est évident qu'il y a un marché là-dessus.
C'est amusant.
Et après, c'est les gens qui veulent se projeter, Monde Ouest, il y a quelques années. Pas le Monde Ouest là, moi je repense au Monde Ouest.
Westworld, l'époque de la série de J.J. Abrams.
Non, moi je pense à Monde Ouest d'il y a 30 ans.
Le film
avec Yul Brynner.
Oui. Tiré d'un roman de Michael Christian,
voilà,
d'ailleurs.
Et où les gens voulaient vivre dans un western, ils voulaient vivre dans une époque féodale, ils s'inventaient toute une histoire, et c'était des robots qui réagissaient comme eux, justement. Et le film, c'était la révolte de ces robots, justement.
D'un robot.
D'un robot, et Yul Brynner, notamment, oui.
Cela dit, on voit que l'être humain est faible. Enfin, je veux dire, l'amour qu'on peut porter concernant un animal, par exemple, fait que
après, Tamagotchi.
On a l'entrepôt. Enfin,
non, mais les gens rentraient chez eux parce qu'ils avaient oublié de nourrir le Tamagotchi. Moi, j'ai vu ça.
Non, mais bien
j'ai
sûr.
Vu des gens qui d'un coup me disaient mon Tamagotchi, rentrait chez eux.
En fait, nos sentiments, c'est un peu notre faiblesse, si on va bien voir. En tout cas, la manière dont quelqu'un ou une entité peut nous toucher.
C'est la faille. C'est ça la question. Au sens bon ou mauvais, c'est l'endroit par lequel effectivement on peut se faire avoir, ou bien au contraire, on peut développer des jolies choses. Mais c'est effectivement là où ça se joue, et c'est ce sur quoi l'IA aujourd'hui joue, pour avoir une proximité, donc pour baisser la barrière à l'entrée de par rapport à la machine, faire en sorte d'être, on va dire, au plus proche de la machine. C'était le rêve d'un Apple qui voulait avoir une machine la plus friendly, la plus agréable à utiliser, voilà. Et l'IA va beaucoup là-dedans. Après, on peut tomber dans le sens inverse et faire en sorte d'avoir une machine donc qu'on ne reconnaît pas, on ne sait pas que c'est une machine, et on peut basculer comme Blake Lemoine a basculé, par exemple.
Bon, Bruno, ça va? Tu t'as pas trop peur? avec tout ça.
Non, mais je reviens sur un commentaire. Je pense que c'est Frédéric qui faisait le commentaire par rapport à une IA générative qui serait polie. Ben, je pense qu'il parlait de ChatGPT. Mais ça fait longtemps que ça existe. Hein. Moi, je me souviens, dans les premières années avec Alexa, là, on parle d'un assistant personnel, là, d'une borne.
Oui.
Quand on l'activait, dépendamment du type d'approche ou de demande qu'on faisait, avec des « s'il vous plaît » ou pas des « s'il vous plaît » ou des « merci » ou des « pas merci » à la fin, on avait un différents types de réponses. Et même qu'à un moment donné, il y a même Amazon qui a intégré, il y a même le système de réponse des correctifs. C'est-à-dire que lorsqu'il savait que c'était un jeune qui l'interpellait, ben, il était beaucoup plus sensible à ça et donc invitait les jeunes, et Amazon avait communiqué là-dessus, en invitant les jeunes à être pas mal plus polis qu'ils l'étaient d'habitude avec cette borne-là et qu'elle allait les remercier. Et je vous invite à faire le test. Si vous avez une borne chez vous ce soir en vous couchant, souhaitez-lui une bonne nuit, vous allez voir la réponse.
Ah, je veux dire, frérot, tu me parles.
Ouais, c'est ça.
Je veux voir.
Bah, écoute, c'est dingue, bientôt on va se faire engueuler par notre IA parce qu'on n'est pas poli.
Si ça peut remettre quelque part un peu de...
d'éducation dans tout ça, pourquoi pas. Hein.
Et puis tu sais pas, le jour où il y aura le soulèvement des machines, il faut peut-être que l'une...
Oui, voilà, exactement, on leur rappellera à ce moment-là.
Voilà, on dira, moi j'ai été poli avec toi.
Qu'on a été poli. Ouais. Enfin, cela dit, on parlait de ces assistants vocaux, ils ont encore du boulot hein, avant de passer le test de Turing, je
oui,
pense.
Oui.
Parce que c'est pas gagné. Mais même si Amazon, même si Apple avec Siri, tous vont se mettre progressivement à l'intelligence artificielle générative. Messieurs, il est bientôt 20h30, petite pause et on va poursuivre avec ce joli cocorico quand même. Les startups d'intelligence artificielle qui sont fondées en France sont celles qui récoltent le plus d'argent en Europe. Mmh. C'est pas mal quand même, plus de 2 milliards. Bah voilà, attendez, quand on peut se faire plaisir.
C'est pas le plus grand nombre de levées de fonds, mais c'est en
valorisation.
Ouais, en...